Libre associative et 19h RIS. Ça se dit ?
Non.
Enfin bref, il est 19h, on est vendredi.
Piloter un bateau se fait en équipe et chaque membre de l'équipage aura un rôle à jouer.
On peut même parler pendant le générique. Sur...
Allez Marcel, ouvre le bon canal.
Le capitaine va s'assurer que tous les membres de l'équipage sont à leur poste.
Encore leur musique de dingue. Salut les matelots, les matelotes, c'est Radio Primitive, on est en direct pour le Penish Radio Show. Une heure de musique fraîche.
Ah oui.
En son logo. Bonjour Yann, ça va?
Ah oh, ça y est, il recommence.
Il a mis sa bonnette au fond de sa gorge. Ça c'est Pierre là que vous venez d'enduire. Alors loup, comme on l'appelle entre nous. Marie, bonjour.
Bonsoir.
Ah, ça fait plaisir de vous voir comme ça.
Oui.
Face à moi.
Moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir tous les deux. Je savais pas que Pierre était là, du coup, c'est trop bien.
Moi non plus.
Ouais. C'est un petit soleil.
Moi, je suis content de vous voir,
pourrie.
Mais pas trop.
Je vais lui mettre des effets dans le micro, tiens. Ça
oui.
Va,
ah ouais.
Va rigoler.
Ah oui, un pitch.
Je vais regarder ce que j'ai. Pendant que vous présentez peut-être en deux mots ce que vous allez nous
du
passer ce soir.
Garage, du noise rock jazz endommagé, du screamo post hardcore.
Ouais.
Et
du screamo, vous.
Oui, post-hardcore.
Pierre.
Post-hardcore.
Ah oui, 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 oui.
Et
mais bon.
Une chanteuse japonaise oubliée.
Ah yes, ça j'adore quand tu fais ça.
Ah,
ça c'est vraiment ce que je préfère.
Oh bah cool. Oh bah cool. Oh bah cool.
Ah, ah
cool.
Ça y est.
Ya 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 ya.
Bon, les effets sont pas top sur cette console.
Non, c'était mieux avant, l'autre
oui.
console.
Et donc, avez-vous Marie
qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai une sélection découverte, concert et bouge ton boule. Alors, j'ai toujours ma cold wave qui traîne au cas où, mais sinon, en fait, je vais passer deux morceaux que j'ai découverts grâce à un festival qui est passé. On sera plus dans le post-punk, nouvelle vague post-prog, comme ils disent. Et pareil, si on a le temps, deux morceaux pour un festival qu'on va bientôt faire. Et là, on sera plutôt dans les sonorités indus, techno et le BM pour le bouche en boucle, quoi. Voilà. Et vous?
Ouais. Eh ben, de la nouveauté. Je viens de voir. Alors j'ai plein de morceaux, je sais pas ce que je vais passer, mais en tout cas, il y a du français, il y a du américain. Mmh. Ah oui, Converge, je viens de sortir un
bah
album
oui,
aujourd'hui, on va pas pouvoir y couper.
Bah non.
J'ai un groupe anglais aussi, deux groupes anglais. Enfin, on verra, tout ça, ça aussi, l'entre post-hardcore, hardcore, noise hardcore et,
wow.
Et screamo hardcore.
Ah oh. Et ben ça va être sympa.
Ouais, carrément.
Ouais, bah oui. Mais,
bon,
avant
allez, mais avant
tout ça.
Attention. 19h03, que s'est-il passé dans l'histoire le 5 juin?
Oui.
Effet Marine.
Effet Marine spécial vrac de l'histoire en cette journée mondiale de l'environnement instaurée par l'ONU. On commence avec la date du 5 juin 2004. Le maire écologiste de Bègles, près de Bordeaux, en Aquitaine, Noël Mamère, mais oui, c'est lui, célèbre un premier mariage entre personnes de même sexe en France, dans sa commune, malgré l'interdiction du gouvernement et de la loi d'alors.
Quel rebelle
ce Noël. Oh là là. En 2013, alors là, c'est la vague d'émotions, hein, hommage, hein, petit passage hommage. Donc, passage du Havre à Paris, c'est l'assassinat du jeune militant libertaire antifasciste Clément Méric lors d'une confrontation avec un groupe de militants d'extrême droite. Donc Clément Méric, petit rappel, hein, il est né le 18 avril 1995. Il était donc le fils de deux enseignants de droit de l'université de Bretagne occidentale à Brest. C'était un élève brillant au lycée de l'Arthe-Loire de Brest. Il obtient un baccalauréat scientifique, mention très bien, j'ai voulu tout dire. De sensibilité libertaire, il commence à 15 ans à militer au sein du syndicat CNT et participe activement en 2010 au mouvement de contestation contre la réforme du lycée, on s'en souvient. Il poursuit ensuite ses études à Paris, à l'Institut d'études politiques de Paris 9, donc Sciences Po, hein, et adhère au syndicat solidaire étudiants-étudiantes. Militant antifasciste, il rejoint le groupe Action Antifasciste Paris-Banlieue et est fiché par la police pour son activisme. Bah oui, quand même. Il participe en particulier à des contre-manifestations et actions contre l'extrême droite lors des mobilisations des opposants pardon, au mariage gay à l'automne 2012 et au printemps 2013. Le 5 juin 2013, avec quelques membres du groupe antifasciste, il rentre fortuitement en contact lors d'une vente privée de vêtements avec des membres d'organisations d'extrême droite, des jeunesses nationalistes révolutionnaires et de Troisième Voie. Une rixe s'ensuit au cours de laquelle, bah, malheureusement, Clément Méric, frappé violemment par un des protagonistes, trouve la mort. cet assassinat d'un militant antifasciste frappé violemment suscite en fait une vague d'indignation et de manifestation dans plusieurs villes de France, alors que prolifèrent librement des organisations ouvertement fascisantes. Et encore plus depuis. Voilà. Donc, pensez à Clément et à toutes ces personnes qui n'ont pas eu leur minute de silence, je crois, à l'Assemblée ou ailleurs.
Bon, ils en veulent pas, je pense.
Mm-hmm. Et en 2015, on change complètement, ce qui nous fera arriver à l'anecdote musicale après. Donc à la sortie du film biopic musical sur les Beach Boys, Love and Mercy, véritable histoire de Brian Wilson, le leader fondateur du groupe, avec Paul Dano, puis John Cusack. Voilà.
Cusack,
plutôt.
Ok.
Ouais.
Anecdote musicale.
Oui, du 5 juin 2003. Alors c'est hyper compliqué parce
2003,
que
2003, David Guetta.
C'est un quelqu'un par rapport à la musique. Alors c'est un quelqu'un de type quelqu'un comme nous. Hein. Donc c'est très compliqué.
Quelqu'un dans la musique.
Qui aime la musique. Mais ça va être dur à trouver parce que c'est pas un musicien ou une musicienne. Là, ça va être dur, honnêtement.
Philippe Hanoff.
C'est un événement. Non, c'est pas quelqu'un de connu. ou dans sa ville, il devait être connu, oui. Ah, elle est compliquée, là. Hein. Ouais, je le dis. Allez, je le dis. Un grand-père, c'est lui, le quelqu'un, qui avait installé sa propre station de radio pirate à Wakefield, dans le Yorkshire, a fait l'objet d'une enquête des autorités locales de la radiodiffusion. Cet homme, connu sous le nom de Ricky Rock, avait installé un émetteur de 9,75 mètres dans son jardin et diffusé des tubes des Beach Boys, des Beatles et d'Elvis Presley. Ricky expliqua alors avoir créé cette station car, je cite, « les boys bands sans talent et la musique dance diffusée sur les radios locales ne correspondaient pas au goût de sa génération ».
Oui, bah c'était mieux avant.
Voilà, c'était mieux avant, donc pour faire plaisir à tout le monde, il a fait une petite radio pirate et ça m'a fait rire. Voilà. Donc c'était Ricky Rock.
Ricky Rock. Sur WKWD, WD40 FM. Bon,
bah. On a l'inventé, okay. Celle-là.
Un portrait de femme.
Allez, on termine avec le portrait de femme. Née le 9 octobre 1906 à Shillong ou Shillong, en Inde, je ne sais pas, Ethel Colquhoun est une peintre et femme de lettres surréaliste britannique. Donc elle naît à Assam, dans le nord de l'Inde, au sein d'une famille d'origine indienne coloniale. Elle arrive en Angleterre à l'âge d'un an où elle manifestera très tôt un certain goût et talent pour l'art. Elle intégrera alors en 1928 la Slade School of Fine Arts de Londres, l'une des écoles d'art les plus progressistes et les plus prestigieuses d'Angleterre. Bon, regardez bien l'idée de progressiste parce que vous allez voir, ça va un petit peu changer. Pour approfondir sa formation, Ethel se rend à Paris où elle fréquente l'académie Colarossi en 1931. Au cours de cette période, en 1931, elle va découvrir évidemment le surréalisme et rencontre plusieurs figures majeures de ce mouvement, notamment René Magritte, André Breton, Dali, Marcel Duchamp et Man Ray, lequel la photographie d'ailleurs tenant une gerbe de blé. Et donc si vous voulez voir la photo, cette photo en tout cas elle évoque Déméter, la déesse des moissons, de la fécondité de la terre dans la mythologie grecque, et ça permettra à Ethel de finalement se faire connaître parce que la photo deviendra célèbre. Après 2 années d'immersion dans le monde artistique parisien en pleine effervescence, elle rentre à Londres transformée. Elle y effectuera en 1936 sa première exposition solo à la Cheltenham Art Gallery, témoignant clairement de l'influence du surréalisme. Elle y réinterprète des sujets végétaux sous forme de nature morte, empreinte d'un symbolisme érotique. La même année, elle se rend à l'exposition internationale du surréalisme de Burlington Galleries de Londres et y voit notamment le travail de Salvador Dali, intensifiant d'autant plus l'impact du surréalisme sur son œuvre. Allez voir, il y a des œuvres vraiment, on dirait, du Dali. En 1939, après s'être alliée au mouvement surréaliste, Ethel est invitée à rejoindre le groupe surréaliste britannique sous la direction du marchand d'art et artiste belge Édouard Léon Théodore Mézens, je ne sais pas comment on dit. Elle expose aux côtés de Roland Penrose, qui était donc un photographe, poète, et c'était également le conjoint de Lee Miller, si ça vous intéresse, dans une exposition conjointe donc à la Mayer Gallery. À l'été 1939, après s'être rendue dans l'atelier d'André Breton et de Jacqueline Lamba, de retour à Paris, elle découvre le concept d'automatisme et en particulier la notion de morphopsychologie, une méthode visant à découvrir et exprimer l'essence cachée de la psyché par le biais de processus automatiques et de divers médias. On trouve pas mal ça aussi dans l'art brut. En 1940, au cours d'une réunion au restaurant Barcelona à Soho, à Londres, le belge là, Messens, l'expulse du groupe avec d'autres femmes surréalistes. Cette exclusion s'explique par le refus, dit-elle et des autres, hein, de suivre les limites imposées par les membres du mouvement et de renoncer à son intérêt pour l'occultisme. En conséquence, dans les années 40, ça va être sombre hein, pour elle, parce que les possibilités d'exposer et de publier ses œuvres s'amenuisent. Et oui, sa liberté créative, tant louée, a été finalement décriée lorsqu'elle a refusé d'obéir et qu'elle a proposé une approche plus indépendante. Bah oui, quand même, enfin, on n'est pas si progressiste. En 43...
L'occultisme, non.
Ouais, mais bon, les surréalistes, ils aimaient bien que les femmes, ça soit leur muse. Pas qu'elles soient des artistes indépendantes.
Ça restait des hommes, tu veux dire ?
Voilà, c'est ça. En 1943, elle épouse l'artiste et poète surréaliste d'origine russe Tony Del Renzio. Je sais que vous ne l'auriez pas trouvé tout seul. De qui elle divorcera en 1948. Toutefois, pendant leur brève union, ils s'emploient activement à promouvoir le surréalisme en Grande-Bretagne en organisant des expositions comme celle de 1942 à l'International Arts Centre de Londres. Au cœur du mouvement surréaliste, les femmes, justement, on en parlait, qui cherchent à se libérer de l'oppression, se retrouvent souvent prisonnières d'un paysage onirique façonné par des désirs masculins très traditionnels et sont souvent présentées sous des formes d'archétypes. Hein. Donc il y a la femme-enfant, l'être céleste, la muse, comme je disais, les sorcières, les objets érotiques, et oui, bien évidemment, et la femme fatale, évidemment. Par conséquent, aux côtés d'autres femmes surréalistes pionnières telles que Carrington, Edith Remington ou Agar, Ittel va chercher à redéfinir l'identité féminine en s'appuyant sur des archétypes forts et symboliques. La déesse, l'alchimiste, alors là on voit bien le lien avec l'occultisme, la scientifique, la tisseuse de destin, la guide spirituelle et plus résolument la grande déesse mère. Elle a également exploré sa propre sexualité et son identité dans ses œuvres d'art. Elle inventera de nouvelles techniques surréalistes comme la graphomanie, la stylomanie et le parsemage, en plus d'être aussi romancière, dramaturge et poétesse, hein, un petit carnet bien chargé. Hein. Et donc tout au long de sa vie, elle s'intéressera donc à l'occultisme, plus particulièrement à l'arbre de vie kabbalistique. Sa quête spirituelle englobe un large éventail de traditions ésotériques, notamment l'alchimie, la magie, le rosicrucianisme, la kabbale, le gnosticisme, excusez-moi, le tarot, l'astrologie et j'en passe et des meilleurs. Ce profond engagement dans l'occultisme qui a commencé à la Slade lorsqu'elle s'est plongée dans des cercles mystiques tels que la Quest Society imprègne ses œuvres d'art, sa poésie et ses essais d'une signification ésotérique. Son adhésion spontanée à l'ordre hermétique de l'Aube Dorée n'est pas acceptée, mais elle devient plus tard membre du très proche Ordo Templi Orientis d'un certain Aleister Crowley. Pensez à toi. Elle rejoindra dans les années 60 l'ordre druidique, l'ancienne église celtique et diverses loges maçonniques pour finalement être ordonnée prêtresse d'Isis par la Fellowship of Isis en 1977. À la fin de sa vie, son art reflète de plus en plus son engagement profond dans les traditions ésotériques, mêlant des éléments mystiques et occultes au thème du pouvoir féminin et de l'exploration spirituelle. En 1958, elle s'installera en Cornouailles où elle finira ses jours. Elle se consacrera alors à la peinture, à l'histoire celtique et à l'écriture de romans, de poèmes, de livres topographiques et de nouvelles. Elle publiera un roman occulte, The Goose of Hermogenes, et un recueil de ses Collected Magical Writings qui paraîtra de manière posthume. Elle meurt le 11 avril 1988 en Cornouailles. Elle passera d'artiste marginale dont le travail a été minimisé et notamment par les surréalistes type hommes à grande représentante singulière du surréalisme après son décès. Et voilà, l'histoire de l'art la redécouvrira, redécouvrira son œuvre, ses explorations plus profondes, là où le mouvement surréaliste célébrait plutôt tout ce qui était rêve, inconscient. Pas merci donc aux hommes du surréalisme qui n'avaient finalement rien de progressiste et bravo à ces femmes qui ont su se libérer et en plus qui ont été plus loin, qui ont poussé le concept. Donc voilà, c'était Ittel, la petite indienne surréaliste.
Et
occultiste.
Ouais, surtout, j'ai l'impression. Ça part un peu en cacahuète cette chronique.
Non, mais faut regarder ses œuvres. Hein. C'est très parlant quand on voit ses œuvres. Merci Vincent.
Très bien. Bon, merci Marie.
Je vous en prie.
Un peu de musique. On va rester en Angleterre, tiens.
On reste dans l'occultisme ou pas?
Pour le premier groupe, ça je sais pas, j'ai pas lu les paroles. En tout cas, le morceau s'appelle Adrénaline.
Ah.
C'est un trio qui s'appelle Shooting Daggers. C'est la péniche, c'est la saison 28 et c'est l'émission numéro 73. Non, on sait plus. Bienvenue à bord. We'll be right back. Eh ben voilà, on attaque avec Shooting Daggers, un trio londonien, punk, queer, qui vient de sortir son album The Real Life Thing. On vient de s'écouter Adrenaline, donc qui ouvre cet opus. Petit bah, côté du rock actuel, le hardcore qui s'emprunte beaucoup de grunge des années 90, etc.
Complètement.
Petite influence Turnstile pour pas les nommer aussi, mais en même temps ça fait plaisir.
Ah puis ça marche bien. Hein.
Shooting Daggers sur New Heavy Sounds. Je vais la rajouter dans mon tableau Excel des infos.
Parfait.
Voilà, qu'est-ce qu'on fait?
Je sais
pas. Tu veux passer un morceau?
Oui, bah on peut aller en Australie si vous voulez.
Ah bah alors on y va. C'est parti.
Avec le même genre de... Oh non allez, c'est pas tout à fait ça. C'est plus post-punk garage moi, avec Bench Press. Je sais pas, vous connaissez? C'est un truc 2024. C'est pas très vieux. Voilà. Qu'est-ce que ça parle? Ça vient de Melbourne. Et les rythmiques sont sèches. Et des textes ancrés dans la santé mentale et le quotidien.
Très
c'est
bien.
Efficace et direct. Sans ornement.
Voilà. Tu fais des chroniques sur Radio Primitif, toi, non?
Alors, le titre s'appelle Risk Exposure sur Personal Best. Et ça date de 2024. Si tu veux bien en balancer.
Oui, je veux bien. Ça sentait un peu l'Australie.
Hein. Eh ouais. Putain, ils ont un son reconnaissable.
Oui, c'est vrai, à force. Hein.
Non.
Bon, allez, je vais. Pardon. Bon, je vous en prie. Allez. Je vais commencer donc ma sélection par une découverte faite grâce au superbissime festival Mégaphone. Quoi, vous connaissez pas le Mégaphone? Mais il faut y aller, c'est génial.
Bah, on n'a pas passé la prog avant.
Non, donc on l'a passé après. Enfin, quelques-uns. Donc, il s'est déroulé donc, samedi dernier à Germaine. Hein, donc, rendez-vous l'année prochaine. Les éditions sont donc mieux en mieux.
De ouf.
Et franchement, encore bravo et merci à toutes et tous hein, parce que c'était une putain de soirée, une putain de journée, de la bonne humeur, de la bonne prog. Bref, c'était cool. En fin d'après-midi, donc, on a eu la chance de découvrir Mata Hari, qui est un groupe engagé comme on les aime, hein, de post-punk et punk from Béziers. J'allais dire comme quoi, si on retire Robert Ménard, ça a l'air pas si mal, Béziers, finalement. En tout cas, il y a des gens engagés, mais pas engagés chaud, comme lui. Oui, peut-être qu'il fait peut-être un peu trop chaud. Bon, en tout cas, musicalement, il y a l'air d'avoir des choses intéressantes qui s'y passent. En 2019, donc, le trio a sorti son premier EP intitulé Building Site et ils sont revenus en décembre 2023 via le label No Need a Name avec l'opus Remain Political. Non, pas du tout, avec l'opus Remain Silence, excusez-moi,
voilà, oh là là.
Remain Silence, j'ai sauté une ligne. Donc des 5 pistes qui composent l'opus, donc j'ai choisi la case que l'on a pu entendre au mégaphone qui s'appelle donc Political. Riff effréné qui traduit une urgence associée à une énergie punk, basseron des groovy qui attaquent tout de même aux côtés d'une frappe percutante et tendue et d'un chant acéré et sans concession. Voilà ce qui vous attend avec Matahari qui à un moment m'a fait penser un petit peu physiquement, peut-être plus, je sais pas, ou l'ambiance aux britanniques de Knives. Je sais pas, j'ai eu l'impression.
Ah ouais,
ouais, je sais pas. Mais c'est pas forcément musicalement, mais je sais pas, les gars, ils m'ont fait.
En tout cas, sacrée
bon,
présence.
Il manquait le saxophone,
ouais, c'est ça,
évidemment.
Ils sont un peu moins, ils sont
mais
trois.
Ouais, sacrée présence scénique, quoi. Je pense que c'est ça qui m'a rappelé.
Donc belle lumière aussi.
Oui, oui, très belle lumière. Je sais pas qui faisait ça, mais c'était magnifique. Hein. Bon, voilà, en gros, voilà, si vous avez eu l'occasion de les voir, on se refait un petit kiff. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'être au mégaphone ou de ne pas les voir, bah, chez déjà. Et rendez-vous l'année prochaine. Et en attendant, voici Matahari avec Political. Yeah.
Can deny.
On se remémore tout doucement le mégaphone là.
Ouais, c'est clair.
Plus de patates en live.
Oui, c'est ce qu'on disait. Effectivement, ils avaient une sacrée présence scénique et effectivement, ça envoyait bien.
Ouais, Matahari, c'était
ouais,
cool.
C'était
et
vraiment
cool. Le deuxième groupe que tu passeras tout à l'heure était aussi très très bien.
Ah ouais.
Belle surprise, belle découverte. C'était,
clairement.
Pour moi, c'était la grosse découverte.
Clairement. Donc pour
mais
ça, je remercie encore le mégaphone, toute la team parce que de très bons groupes.
Carrément.
Choisis.
C'est plaisir ce petit festoche.
Ah ouais.
Toujours à l'écoute de la péniche primitive radio show radio.
Oui.
On est ensemble jusqu'à 20h. Ce soir, toute l'équipe est là. Et j'avais envie de vous passer une petite nouveauté du jour.
Oh.
On peut pas y couper, là. C'est les copains de Converge.
Converge.
On les connaît bien.
Les copains.
Bah oui, c'est un peu des copains, à force, depuis le temps qu'ils nous accompagnent.
Ils le savent pas.
Ils le savent pas. Ils ont sûrement plein de copains.
Oui.
Hum of Earth.
Oui.
C'est l'album qui vient de sortir aujourd'hui même. 6 mois après donc Love Is Not Enough. Et bah c'était pas assez. Et donc du coup ils nous ont sorti un disque beaucoup plus noise hardcore au final que le précédent
qui était
direct et frontal.
Ouais.
Bah là ça reste frontal mais c'est moins cassage de tête, moins frénétique peut-être. Un peu plus lourd, plus méchant, plus... Voilà, c'était compliqué. Je l'écoutais en entier, une fois et demie.
Oh.
Pour tout vous dire, bon, il fait 37 minutes, ça va, c'était pas non plus c'était pas super compliqué. J'ai choisi It Only Gets Worse, déjà parce que je trouve ça rigolo comme titre, parce que la piste elle est vraiment cool, c'est la 3, mais surtout parce que toutes les autres que je voulais vous passer, on les passera dans des prochaines émissions.
Mais oui.
Voilà, c'est sorti aujourd'hui même, Converge, Fuego.
Score de ouf, c'est une des plus
bourrine
et frénétique de l'album, mais
c'est vachement bien.
Oui,
ah ouais.
Ils sont là où on les.
On peut les attendre.
Oui, on les attendait nulle part en
c'est
vrai.
Mais track et je préfère ça, je t'avoue.
Ah.
Bon après.
C'est plus sombre, plus dark, je trouve, plus gras vers le bas.
Ah ouais, c'est méchant comme tu disais effectivement.
Mais ça donne envie d'écouter tout l'album.
Ah
sûr.
Ça oui. Ah,
et bien, si vous voulez, vous m'envoyez deux timbres. Ouais, deux timbres à l'adresse de Radio Primitive, je vous envoie des CDR.
Ouais.
Génial, t'as encore de quoi graver.
C'est pas le club Dial, c'est le club. On va trouver un nom.
C'est pas France Plaisir, c'est. Avec France.
France Plaisir.
France Plaisir.
Ok.
Allez, bien.
J'enchaîne alors.
Oui.
Alors,
s'il vous plaît.
À peu près, c'est pas vraiment la même veine, mais c'est aussi énervé. Bon, pas tout à fait pareil. Ouais, avec Terry Green. J'ai déjà passé
un... Ah oui, t'en as déjà passé.
Exactement. Avec de l'album qui s'appelle Provisional Living de 2024. C'est assez récent, ouais, en fait. Hein. Et voilà, moi, je trouve que c'est entre le hardcore et le screamo. Et ils viennent d'Ontario, de l'Ontario.
Ah,
ouais, bah dis donc. C'est super, non? Et voilà. Donc, alors, c'est pour toi, Marie. Ah. Des guitares tendues, une voix qui bascule entre spoken word épuisé et screamo frontal. Wow. Une urgence contenue qui finit par lâcher.
Oh, je trouve que c'est mieux que moi. Hein. Bravo, Pierre. Franchement.
Et il met le ton, c'est pour
non,
ça.
Non, mais c'est ça, ouais, il y a tout. C'est-à-dire un petit enfant qui répète sa poésie à la primaire.
Alors, par contre, oui. Alors, bon, allez. On peut l'écouter, peut-être vous me direz après si c'est bien ou pas.
À l'heure où blanchit la campagne.
J'irai te rejoindre.
Voilà, Terry Green avec le titre Easy. We'll be right back.
jusqu'à la dernière once.
Super. Moi, j'ai eu des petits frissons derrière la moelle épinière. Là, comme ça.
Oh. Ah, t'as froid ? Tu te confermes la fenêtre ?
Non, je suis ému.
C'était vachement bien.
T'es ému ou émo ?
Je suis émo !
Eh bien, mieux vaut tard que jamais.
Enfin, il l'avoue.
Mais moi, j'aime bien. Hein. Bah, j'aime pas trop quand ça chougne, c'est tout.
Oui, c'est ça. T'aimes bien quand c'est émo dans la musique, en fait. Non, non, le morceau était vraiment cool, Pierre.
Alors,
merci. Oui.
Alors, Professional Living.
Merci.
Moi aussi, je peux vous le mettre sur un DVD, par contre.
Ah.
Parce que j'ai que des DVD à graver, donc je vous mets... Bon,
bah, voilà. Vas-y, hein. Chiche. Bon, vous aimez la Suisse ?
Ouais.
Ouais.
On va avoir un compte, quoi.
Vous aimez la Romandie ?
Oui.
Oui.
Bah, bon, quitte à choisir un pays en Suisse.
De toute façon, si vous me dites non, c'est pas grave, je passerai quand même. Hein. Alors, puisque le prochain groupe nous vient non pas de la Chaux-de-Fonds comme tous les autres, mais de Lausanne. Très très beau musée d'art brut à Lausanne, hein, je vous le conseille. Et se nomme donc Chauffaut. C'est H-A-U-F-A-U, je vous le dis parce que sinon vous aurez du mal à trouver. Voilà, encore une fois, grâce à des personnes de bon goût, on a pu découvrir ce groupe au mégaphone, donc qui mélange post-punk, sonorité électro-punk et, je cite, donc nouvelle vague post-prog, comme ils le disent eux-mêmes. Et tout comme Matahari, bah, ils ont quand même vachement bien chauffé le public, ils ont mis l'ambiance et c'était une sacrée découverte. Hein. Donc
une sacrée soirée.
Sacrée soirée.
Du début à la fin. Ils sont arrivés assez tôt, ils sont repartis assez tard.
Ah ouais. Ah ouais. En mai 2025, donc Chauffaut a sorti son premier album intitulé C'est Novice. Et c'est bien la 2, messieurs, dames. C'est bien la 2, oui. Vous avez bien entendu, que nous allons écouter et qui s'intitule Freine. Nappe, alors ça c'est pour toi Pierrot, nappe électrograinçante, riff saturé et cyclique dans un esprit kraut, basse brute et sombre et chant plutôt minimaliste contraste avec une frappe et des sons synthétiques plus dansants au cœur d'une atmosphère en tension. Et bim, là d'un coup, on passe du rock à quelque chose de plus techno qu'on n'attendait pas. C'est très surprenant, très hybride, très expérimental. Ça capte, complètement ça capte, et en vrai c'est hyper efficace. Les mecs ont aussi une sacrée présence sur scène, et c'était très très cool de les voir. Donc ben voilà, c'est Chauffaut avec Freine.
Freine comme freine ?
Ouais, comme freiner.
Ou freine,
pas comme freine, comme le... comme le verbe freiner.
Wow.
Alors là, ça on voit déjà. Alors, imaginez sur scène.
Live,
ouais, non mais ouais, c'est clair. Ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. T'as vraiment un côté hyper hypnotique, quoi. C'est dingue. Quoi.
Mais tu l'as bien. T'as dit Kraut. Enfin,
ouais,
il y avait un côté clairement
idée,
psyché,
oui.
Post-wave,
ouais,
techno,
c'est un mix,
punk. Et là, il chante pas en français. Enfin, si, peut-être.
Si, il freine.
Ouais, il y a des morceaux où il s'exprime plus, on comprend mieux, et où en fait c'est Stéphane Echer.
Ah, voilà. Dans, la poésie. Genre, dans la poésie.
Bah, même un peu dans le.
Un peu le style, ouais.
Ouais, vrai. Puis dans l'attitude, il y a des trucs.
Mais
Chauffeau,
ouais.
Franchement, ma meilleure surprise de ce festoche.
Complètement. Puis très cool, les gars, en plus. Enfin, vraiment. On était devant, j'étais devant avec eux pendant Camilla Sparks et ils étaient à fond aussi.
Ouais, trop bien.
Ah, ben la Suisse, hein.
Non, c'était vraiment chouette. Ben on retournera l'an prochain au Mégaphone. On essaiera peut-être de se faire une émission. En tout cas, si ils continuent à nous faire découvrir autant de bons groupes, on souscrit. Et on dit même, pourquoi pas une édition d'hiver, hein, en février ou en novembre. Bon bref, on en reparlera. Allez, on approche dangereusement de la fin de cette émission. Il va nous rester un petit morceau chacun, je pense. Un groupe français qui s'appelle Nova Lenada, on en avait déjà diffusé. Ils viennent de sortir un nouvel album qui s'appelle Kidam aujourd'hui même. On est entre post-hardcore, screamo. On va s'écouter Sortie d'affaires pour la suite de cette péniche, puisque je n'ai rien d'autre à dire. Point. Et ben voilà, c'était Nova Lenada qui vient de sortir donc un nouvel album qui donne bien envie. J'ai écouté que ce morceau-là parce qu'il était accompagné d'un clip en ligne, mais il y a tout l'album qui est dispo sur leur Bandcamp.
Nova Lenada, ouais, c'est un groupe d'ici du coin, ça.
Il me semble qu'ils sont pas très loin, genre Saint-Dizier ou un truc comme ça. Mais vu qu'ils le mettent plus en avant, c'est marqué France. Bon, je respecte. C'était tout le monde a le droit de renier sa champagnardardise. Okay. Pas de problème. Alors là, aucun problème avec moi.
D'accord, très bien. Eh bien, j'enchaîne ou pas ?
Oui.
Alors nous allons à Tokyo dans les années 60.
Ouais.
Plus précisément à 1968.
Ouais.
J'aime bien ton enthousiasme. On va voir si tu aimes bien. Avec la chanteuse qui s'appelle Yun Mayuzumi. Mayuzumi, pardon. Et ce titre qui s'appelle Black Room, c'est de la pop psyché japonaise, de 1970 d'ailleurs, donc ouais, toujours. Et donc c'est un groove un peu hypnotique, je trouve. Et je pense que vous allez peut-être bien aimer ou vouloir danser.
Ah.
C'est une chanson sur l'absence. Oh. Voilà. Ben, comme je parle pas japonais, j'ai traduit un petit peu.
Ah d'accord.
Voilà, donc si je vais bien l'envoyer.
Oh, yeah!
bravo.
C'était génial, Pierre.
Bravo à Yoon Mayazumi.
Oui.
Mayazumi.
On a reconnu un mot, donc c'est bien.
Anata.
Anata, oui. Anata.
C'est comme Habibi, t'as dit.
Habibi. Bon, bah les gars, sur ces bonnes paroles, c'était cool. Un jour, ça devrait être un son de fin, un bouche-ton boule. Hein. Franchement, je te laisse le bouche-ton boule si tu m'en ramènes.
Bon, l'armée.
bon, on arrive à la fin donc de cette émission. Bon, allez, ouais, trop bien. On arrive à la fin. Et donc, pour ambiancer la cale de la péniche, ce n'est pas un, mais bien deux groupes qui seront présents le vendredi 26 juin à un super festival qu'on va faire qui s'appelle le Rockin' Bourlon, que nous allons écouter. Yeah! Donc il s'agit de Hugh Scott, duo américain de BM et d'Indus, et de King Joseph, producteur et artiste qui s'illustre dans l'Indus, le métal, le hardcore et aussi la trappe. Ah, comme quoi, on peut tout faire. Pour se quitter, donc, nous allons écouter leur collaboration sur le morceau Looking Down, extrait de l'album A Skeleton Key in the Doors of Depression, sorti en 2021. Sonorité indus, rythmique rude, métallique et dansante, nappe synthétique massive, sombre et hantée, et chant hargneux qui vous crache dans les oreilles. Voilà ce qui vous attend avec cette piste et que j'espère on pourra voir en live le 26. Voilà, j'ai
oui,
fini maintenant.
Bah, on se retrouve peut-être la semaine prochaine, je ne
ouais,
sais plus.
On sait plus trop,
c'est ça la fin de l'année, on ne sait plus trop.
Oui, on ne sait jamais. Et nos pogos veulent qu'on fasse une émission pour
ouais,
l'enlever.
Ils veulent, c'est pas comme ça que ça marche. Allez, bonsoir et bon week-end.
Bisous.
Primitive. Légal.